Offensive sonore, un vendredi sur deux sur Radio Libertaire.
Et moi, j'aime l'entreprise.
On pourrait faire buter le patron par un professionnel.
J'aime l'entreprise.
Là, je mettrais plus les pieds dans cette tôle, là.
Faut que tu rationalises.
Vous rentrez ici, vous allez voir quel bordel que c'est. On est dégueulasse jusqu'à là, on est toutes noires, hein. On est toutes noires, hein.
Une entreprise tourne avec X employés, pas X plus 1.
Mais quel patron?
C'est la solution la plus rentable. Donc, pas seule.
Sans publicité, il n'y aurait plus liberté d'idée.
Il y a un troussage de domestiques, je vois, c'était pas bien.
Mot d'ordre central brisé, je cite, les chaînes de l'esclavage qui depuis toujours réduisent à une condition inférieure la femme.
Offensive sonore, un vendredi sur deux sur Radio Libertaire.
Vous êtes bien sur Radio Libertaire 89.4 FM. C'est l'émission Offensive Sonore qui commence avec Patrick qui va nous parler du livre, du pavé qui est sorti dernièrement aux éditions Échappées dans la collection Frankenstein et qui s'appelle L'assassinat des livres par ceux qui œuvrent à la dématérialisation du monde. Donc bonsoir Patrick.
Bonsoir.
Tu as toi-même coordonné le livre qui fait
avec Cédric Biagini, oui.
J'avais dit le pavé qui fait quand même 400 pages.
Oui, quasiment 400 pages, ouais.
Donc voilà, qui est un œuvre collectif qui rassemble, on peut dire brièvement, des éditeurs, des bibliothécaires, des libraires, toutes les personnes qui sont dans la chaîne du livre, aussi les lecteurs. C'est une partie importante.
Ouais, auteur, libraire, bibliothécaire, éditeur. Il y a aussi des gens qui ont contribué à titre de correcteur, graphiste, traducteur, etc.
C'est vrai qu'on a déjà fait une émission il y a deux semaines sur le même sujet. On a interviewé Bastien, libraire à Quilombo. On va quand même redire un peu ce que c'est, dans quel but avait été fait cet ouvrage.
Ouais. Tu veux que j'en dise deux mots?
Voilà,
oui. Donc en fait l'ouvrage s'inscrit dans la continuité de, je sais pas si Bastien l'a dit, donc je m'excuse par avance auprès des auditeurs si jamais ils ont déjà entendu cette histoire, mais donc le livre s'inscrit un peu dans la continuité d'une série d'actions militantes qui avait été faite dans les années 2008-2009 jusqu'à 2011-2012, qui avait été entreprise par un collectif qui s'appelait Livre de Papier, qui est un collectif qui rassemblait déjà à l'époque plusieurs personnes qui étaient dans des métiers différents liés au livre, donc éditeurs, bibliothécaires, auteurs, etc. Et ce collectif avait pour fonction de contrer les avancées du numérique dans les métiers du livre. Pourquoi contrer les avancées du numérique? Tout simplement parce que la mise en place des technologies numériques, l'informatique, les réseaux sociaux, le livre numérique, etc., était conçue comme une manière pour les grands industriels du secteur du high-tech de reconfigurer entièrement tout un marché, toute une forme de production, toute une série de métiers et de professions pour en tirer le maximum de profit. Peut-être quand je parle de reconfigurer ces métiers-là, il s'agit même pour certains de les faire disparaître purement et simplement, puisque par exemple dans le livre numérique, la logique de la technologie veut que tous les intermédiaires entre l'auteur et le lecteur soient supprimés, c'est-à-dire le libraire, l'éditeur, et le maquettiste, le correcteur et ainsi de suite. Cette logique de suppression des intermédiaires est une logique aussi de déqualification, c'est-à-dire que les personnes qui travaillent dans les technologies numériques n'ont plus les savoir-faire et n'ont plus la capacité de faire respecter les rapports de force qui s'appuient sur ces savoir-faire face à leurs employeurs. En fait, on constate sur le plan socio-économique que le numérique, on constate aujourd'hui encore, que le numérique rajoute un élément supplémentaire dans les mains de ceux qui ont le pouvoir économique contre ceux qui travaillent dans les métiers du livre. Et puis il y avait une autre dimension qui était présente aussi dans le collectif Livre de Papier et qu'on retrouve aussi dans ce livre, qui est la critique du numérique, cette fois-ci sur un plan plus culturel, c'est-à-dire en fait ce que l'informatique et les nouvelles technologies font à la culture. Comment elles créent de nouveaux rapports à la culture qui sont, selon nous, des des rapports beaucoup plus pauvres, beaucoup plus appauvrissants, beaucoup plus dépendants de la technologie, c'est-à-dire d'un rapport froid, objectivé, calculateur, instrumental au monde et aux personnes qui peuplent ce monde. Et nous, ça nous semblait vraiment extrêmement problématique, dangereux, inquiétant de voir avancer ces technologies dans ce qui fait le cœur de ce qui constitue l'humanité, c'est-à-dire les manières de se cultiver.
Et il y a aussi, donc la dernière fois on a parlé des librairies, ce soir on va plus parler des bibliothèques.
Oui.
Sauf si tu veux, évidemment, si tu veux parler d'autres thèmes, mais déjà dire. Combien de personnes ont écrit sur les bibliothèques? Il y a des, je vois le collectif Bartleby.
Ouais.
Je savais pas comment prononcer. Qui est un collectif de bibliothécaires. Il y a aussi d'autres auteurs. Est-ce que tu peux dire un peu?
Oui, oui, oui.
Parce que dans ce recueil de textes, il y a la partie bibliothèque qui est assez longue. Et en fait, c'est vrai que l'interview que j'avais fait il y a deux semaines sur les librairies, c'était très focalisé finalement sur l'e-book. Mmh. Et là, on voit dans le premier texte Bibliothèque face au numérique, c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus large que simplement, on ne peut pas résumer à cet objet-là.
Effectivement, c'est beaucoup plus large. En fait, tout à l'heure, je disais que le livre était dans la continuité des actions militantes. En fait, pour nous, à un moment donné, dans le collectif Livre de papier, on a ressenti la nécessité. Bon, déjà, on a ressenti un épuisement, c'est-à-dire qu'on était quand même très minoritaire dans ce qu'on défendait à l'intérieur de nos professions. On a ressenti donc un épuisement parce que les actions militantes trouvaient du public. On sentait bien qu'il y avait une réception favorable, mais ça restait encore très diffus. Et on a ressenti aussi le besoin de s'arrêter un petit moment, de pas être non plus dans la volonté de coller complètement à l'actualité du numérique qui évolue très très vite et de prendre un peu de recul sur les évolutions qui étaient survenues sur les 5, 10, voire plus dernières années. Et donc le livre est né de ça, en fait, de cette volonté de prendre du recul. Et en prenant du recul, il s'agissait aussi d'associer des personnes qui n'étaient pas dans le collectif Livre de papier. Donc j'insiste bien sur le fait que le livre n'est pas un livre du collectif Livre de papier, même si plusieurs des personnes qui ont participé en faisaient partie. Alors justement, dans la partie bibliothèque, les contributeurs ne font pas partie du collectif Livre de papier, puisque en fait dans les personnes qui ont apporté des textes, il y a Yves Desrichard qui est un conservateur de bibliothèque à Lyon, il y a Alberto Manguel que les auditeurs connaissent peut-être puisqu'il avait fait chez Actes Sud une très belle histoire de la lecture qu'on trouve en poche chez Babel Actes Sud, et qui Alberto Manguel est un auteur de langue espagnole qui a écrit de très belles choses sur le livre, la lecture, etc. Donc il a rencontré aussi un certain succès par rapport à ça. Et là il s'agit d'un texte qui a été prononcé en conférence, mais qui nous a autorisé à reproduire et qui traite brièvement, mais quand même, de la question du numérique, et qui surtout fait l'éloge du livre de papier, puisque nous, il ne s'agit pas seulement de faire une critique, il s'agit aussi de montrer qu'est-ce qui motive cette critique. Et cette critique, c'est notre attachement, notre amour, hein, allons-y, on peut le dire comme ça, pour le livre de papier. Et puis le troisième texte qui est présent dans la partie sur les bibliothèques, c'est un texte écrit par le collectif Bartleby, auquel donc je participe. Collectif Bartleby qui rassemble des bibliothécaires qui sont dans des bibliothèques très différentes les unes des autres. Ce que les auditeurs ne savent pas forcément, c'est que les bibliothèques en France sont extrêmement variées et les métiers de bibliothécaires sont extrêmement variés aussi. Mmh. C'est-à-dire qu'on va trouver des conservateurs qui ont surtout pour mission de s'occuper de la conservation, des acquisitions de livres, aussi malheureusement de plus en plus du management, c'est-à-dire faire des plannings, faire des choses très bureaucratiques. Et puis on va trouver des bibliothécaires qui eux sont dans des tâches de plus de manutention. Donc il y a une forme de stratification qui par moment est quasiment une stratification de classe, hein. Il y a des formes de mépris aussi qui existent. Mais là, on a réussi à réunir des personnes assez différentes à l'intérieur de ce collectif, et puis différentes aussi parce que dans les bibliothèques, on a des bibliothèques de prêt, les bibliothèques municipales, mais il y a aussi les bibliothèques patrimoniales, les bibliothèques spécialisées, qui sont des bibliothèques qui ont pour vocation de conserver des ouvrages anciens, des ouvrages de recherche, des ouvrages de niveau universitaire. En fait, les personnes qui participent au collectif viennent de ces différents corps de métier à l'intérieur du métier de bibliothécaire, conservateur, bibliothécaire, magasinier, bibliothèque de prêt, bibliothèque spécialisée ou de patrimoniale. Dans les patrimoniales, on peut donner comme exemple notamment la BNF, la Bibliothèque Nationale de France, qui est la plus grande bibliothèque en France. Donc voilà, ça... Alors, il y a une dernière chose que je voudrais ajouter sur les participants au collectif Bartleby, c'est que ce sont des Parisiens, mais aussi des gens de banlieue, de la banlieue parisienne. Donc il y a ce double regard aussi qui est pour certains un regard très à l'ancienne, on va dire, le bibliothécaire qui est au milieu de ses collections papier et qui réfléchit à comment les communiquer aux chercheurs, etc. Donc à un public assez cultivé, pas forcément élitiste, mais cultivé, savant. Et puis d'autre part, les bibliothécaires qui travaillent en banlieue et qui là se coltinent avec les problèmes d'illettrisme, avec tous les problèmes sociaux qu'on trouve dans les banlieues et qui sont dus évidemment à la pauvreté imposée aux populations qui vivent en banlieue. Donc voilà, ça construit un regard qui est assez nourri de diverses expériences. Mmh. Et alors pour répondre peut-être à une question que tu as pas encore posé mais qui était un peu implicite dans ton introduction, pourquoi est-ce que ça s'appelle Bartleby? En fait, Bartleby, c'est le nom d'un personnage d'un écrivain de Herman Melville, celui qui a écrit Moby Dick. En fait, Herman Melville, dans un de ses romans, un de ses récits, parce que c'est une histoire assez courte, c'est une nouvelle, présente un personnage qui s'appelle Bartleby, qui est un copiste dans un bureau de notaire, dans mon souvenir, et à qui on demande donc de copier des papiers, de faire de la copie. Donc c'est un travail très 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 aliénant quoi. Et puis un jour en fait ce Bartleby se révolte, mais sa révolte à lui, il va pas retourner la table, il va pas foutre le feu au papier ni rien. En fait il dit juste une phrase qui est, alors qu'on lui demande de faire une tâche, il dit j'aimerais mieux pas. En fait, en anglais, c'est I would prefer not to, donc je préférerais ne pas. Et donc, en fait, c'est une forme de refus, c'est une forme de désertion, comme ça, très modeste, mais enfin, qu'on aimait bien. Et donc, on s'est dit, c'est peut-être ce qui nous définit le mieux.
Ça ressemble un peu à l'histoire du collectif Oblomov.
Oui, c'est vrai.
Qui est un précédent collectif dont tu as fait partie, d'ailleurs.
Ouais, ouais.
Qui était lié là à une nouvelle, à un roman en russe où une personne ne voulait pas. Se lever pour travailler en fait.
Ouais.
Et là plus pour la désertion de la science. Et pour aller dans ce que tu disais par rapport aux bibliothèques en banlieue ou pas des bibliothèques de recherche en fait, pas des bibliothèques ni dédiées aux étudiants ni aux chercheurs. Y a des choses intéressantes qui ont été écrites au début du texte justement du collectif. Où il est dit qu'en fait, à vouloir finalement des choses qui paraissent assez nobles, c'est-à-dire d'essayer de faire venir ces gens vers le livre, on finit par se noyer dans diverses activités qui n'ont plus rien à voir et en fait, finalement, à les faire venir en bibliothèque, mais sans pour autant les faire venir au livre.
Mmh. Ouais. Ben, en fait, ce qu'il faut comprendre pour bien voir la situation des bibliothèques à l'heure actuelle, c'est que les bibliothèques ont été sommées à partir des années 90 de s'adapter au monde numérique, c'est-à-dire s'adapter à l'informatique, l'arrivée des nouvelles technologies. Et donc on a dit aux bibliothécaires, regardez, toutes ces nouvelles technologies arrivent et en fait elles fournissent ce que vous fournissiez déjà au public, elles le fournissent en 10 fois mieux. Elles donnent plus d'informations, plus de divertissement, de manière beaucoup plus rapide, sans sortir de chez soi. Donc concrètement, les bibliothèques vont mourir si vous ne faites rien. Donc c'est le discours qui a été tenu aux bibliothécaires à partir du milieu des années 80 et surtout qui s'est vraiment imposé dans les années 90. Et face à ça, du coup, les bibliothèques ont essayé d'inventer une solution, une alternative, qui était de dire, pour attirer le public à nous, ce public qui va rester chez lui avec ses ordinateurs, etc., pour l'attirer à nous, en fait, on va lui fournir autre chose. Et ce qu'on va lui fournir, c'est de l'animation. C'est-à-dire on va essayer de le ramener au livre en construisant autour du livre tout un ensemble d'animations, d'activités festives, de divertissement, de culture aussi, que les bibliothécaires vont avoir pour tâche de construire à l'intérieur des bibliothèques. Alors le nom qui a été donné à cette doctrine qui est apparue dans les années 80-90, d'abord aux États-Unis puis en France, c'est la bibliothèque comme troisième lieu. En fait, pourquoi troisième lieu? Parce qu'en fait, ça fait référence à une théorie d'un sociologue de l'époque qui s'appelle Ray Oldenburg. En fait, il a expliqué que dans la vie quotidienne de la plupart des gens, en fait, il y a deux lieux. Cette vie quotidienne se déroule entre deux lieux qui sont le lieu de travail et le lieu de loisir, le lieu, en fait, la sphère familiale. Et En fait, il dit, dans la vie sociale, il existe un troisième type de lieu où les gens se rendent fréquemment, mais qui jusqu'ici n'a pas été très analysé, qui est, au choix, la place du village, le café, le bar, etc. C'est un endroit où les gens se retrouvent pour discuter, pour échanger, pour les loisirs. Enfin, voilà, c'est une sphère qui n'est pas réductible à celle de la famille, puisqu'on n'est pas sous le regard du conjoint, des enfants, etc. Et qui n'est évidemment pas le lieu du travail. Et donc, en fait, les bibliothécaires de cette époque-là, des années 80-90, se sont emparés de la théorie de Ray Oldenburg pour dire on va faire des bibliothèques des troisièmes lieux. En fait, c'est ça notre vocation, c'est de faire des endroits où les gens puissent se rencontrer, discuter, se cultiver par les échanges entre générations, entre métiers, entre voilà. Et donc les bibliothécaires dans ce cadre-là, si la bibliothèque devient un troisième lieu, deviennent des animateurs culturels. Ce sont des gens qui ont pour mission de créer une ambiance, une atmosphère qui donne envie aux gens de venir et qui va essayer de les ramener au livre parce qu'ils s'en sont éloignés ou risquent de s'éloigner du livre. Mmh. Voilà, donc c'est ça en fait qui s'est mis en place à partir des années 90.
Donc, et ça, ouais, ça va avec tout ce qui est le Wi-Fi dans les bibliothèques, les espaces où il y a des internet en libre service, tout ce qu'on voit actuellement dans les médiathèques, qui sont plus appelées bibliothèques aussi.
Ouais.
Il y a, et ça, c'est les années 90 jusqu'à nos jours où c'est vraiment
En fait,
la transformation s'est fait encore avant ou
En fait, ça s'est passé en plusieurs temps, c'est-à-dire que au départ il s'agissait de faire un lieu de divertissement et de lien social. Mmh. Donc on a créé on a fait des séances de projection de films, des débats autour de livres, des cercles de lecteurs. Il s'agissait vraiment d'innover dans tous les sens pour faire en sorte que la culture du livre soit plus perçue comme quelque chose de savant et d'élitiste, mais soit quelque chose de directement accessible et voire de divertissant. Donc on a fait aussi rentrer, on a aussi modifier le contenu des bibliothèques, c'est-à-dire qu'on n'en a pas seulement fait à des espaces de rencontre, mais on a fait rentrer dans les collections des choses qui n'avaient pas accès jusqu'à présent. Donc on a fait rentrer la musique, la vidéo, les jeux vidéo, et puis progressivement, là actuellement, ce qui est en cours, c'est par exemple faire rentrer des choses comme les imprimantes 3D, faire des bibliothèques des Fab Labs, enfin des endroits où les gens peuvent en fait fabriquer des objets. Enfin, il y a cette idée d'un endroit où en fait c'est plus seulement un échange des savoirs, c'est même carrément des savoirs qui vont vers une fabrication. Dans tout ça, évidemment, on voit qu'au plus en plus, on s'éloigne du livre, hein, évidemment. Mmh. Et alors, dans cet éloignement du livre, il y a un autre paradoxe, c'est que cette bibliothèque troisième lieu était conçue comme une réponse aux nouvelles technologies, mais du coup elle les intègre complètement. C'est-à-dire qu'on voit les jeux vidéo arriver, on voit les ordinateurs arriver, puisqu'on crée aussi des salles informatiques, on installe le Wi-Fi, et progressivement, en fait, comme la bibliothèque s'est éloignée de sa fonction qui est d'être le réceptacle du livre et l'accueil du lecteur autour du livre, en fait ce qui s'est passé, c'est que les gens qui viennent aujourd'hui en bibliothèque viennent de moins en moins pour les livres, et mmh. C'est ça le vrai paradoxe. Et en fait ils viennent de plus en plus pour avoir un espace de travail. En général c'est aussi beaucoup pour des raisons socio-économiques, hein, c'est-à-dire que en fait les étudiants ou les lycéens n'ont pas envie de travailler chez leurs parents, donc ils ont envie de travailler dans un lieu extérieur où ils peuvent être avec leurs amis. Dans les cafés ça coûte cher, dans les bibliothèques c'est gratuit, donc on va aller dans les bibliothèques pour ça. Certains adultes vont faire la même chose pour avoir disposer d'une connexion Wi-Fi et travailler sur place. Chaque catégorie de la population a un peu sa motivation pour aller en bibliothèque, mais dans toutes ces motivations, paradoxalement, c'est jamais le livre en fait qui fait se déplacer les gens, parce que les gens soit lisent beaucoup moins, soit ont accès au livre par internet, soit utilisent le livre numérique. Enfin voilà, il y a tout un tas d'évitements du livre qui se sont mis en place grâce aux nouvelles technologies, et donc en fait les bibliothèques ont progressivement se sont vidées de leur substance, et c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Et en fait on est dans une sorte de fuite en avant, c'est-à-dire que dans le métier des bibliothécaires il n'y a pas du tout l'idée d'un retour au livre. Paradoxalement, c'est au contraire, puisque les gens ne viennent plus pour le livre mais qu'il faut qu'on survive, on va aller encore plus loin dans l'idée de créer des espaces de travail confortables, larges, aérés, lumineux, avec des connexions Wi-Fi. Et donc on en arrive à la situation actuelle.
Ce qui paraît aberrant, c'est qu'avant les années 80, on va dire, on se posait pas la question de la rentabilité d'une bibliothèque. C'était un service public, l'accès à la connaissance. Et maintenant, il y aurait une concurrence avec Internet, donc il faudrait être rentable.
Ouais. Oui, oui, il y a une vraie forme de concurrence avec Internet. Et d'ailleurs, du coup, se sont mis en place tout un tas d'outils de mesure de la concurrence et de la rentabilité des bibliothèques. C'est-à-dire, par exemple, on va, pour voir si une bibliothèque fonctionne bien, on va voir quel est le taux d'emprunt de livres, quel est le nombre d'accès par jour, quel est le nombre de connexions Wi-Fi. Voilà, en fait, on va disposer de tout un tas d'outils statistiques. Et en fait, ça va être des outils qui permettent aux élus, par exemple pour les bibliothèques municipales, de décider si telle ou telle bibliothèque vaut le coup d'être maintenue ou non. C'est comme ça qu'à Paris, sur les dernières années, il y a 3 bibliothèques qui ont été fermées parce qu'on estimait qu'elles étaient trop petites, qu'elles étaient trop inscrites dans leur quartier, elles n'avaient pas une vocation métropolitaine et que les gens ne s'y connectaient pas assez à Internet, ce qui est un vrai paradoxe quand même. On ferme une bibliothèque parce que les gens ne s'y connectent pas assez à Internet. Voilà. Et dans les bibliothèques, les nouvelles bibliothèques qui ouvrent, la tendance c'est quoi? C'est de réduire les collections de livres. Quand on regarde les 3 bibliothèques qui ont été ouvertes en parallèle de ces 3 fermetures sur les dernières années, c'est des bibliothèques dans lesquelles les collections de livres sont moitié moindres que ce qu'il y avait dans les bibliothèques à l'ancienne. Donc on voit bien qu'il y a une réduction des collections de documents, et en même temps il y a la tendance à faire cette bibliothèque du troisième millénaire qui est, en fait, si je veux être méchant, c'est un hangar avec connexion Wi-Fi. C'est-à-dire on vient, on se pose, on allume son ordi, on se connecte. Et le livre là-dedans a disparu. Et le bibliothécaire est pas loin de disparaître non plus, puisqu'en fait il devient une sorte juste de technicien qui est là pour assurer l'accueil, voir si les connexions fonctionnent bien, etc.
Il y a aussi à un moment donné, je sais pas si ça se fait toujours, les bibliothécaires étaient devenus les promoteurs des nouveaux outils des liseuses, etc. Est-ce que c'est encore le cas? Est-ce qu'il y a encore poussé des industriels là-dessus?
Bien sûr, mais c'est que une manière de se tirer une balle dans le pied en permanence. C'est-à-dire que effectivement, depuis la fin des années 2000 et depuis le début des années 2010 encore plus, il y a une mise en place du livre numérique qui est soutenue activement par les bibliothèques. Il faut savoir que je crois que c'est la moitié des ventes de livres numériques en France qui sont assurées par les bibliothèques. Donc c'est les bibliothèques qui paradoxalement portent vraiment à bout de bras le livre numérique, alors que ce livre numérique est justement ce qui va permettre aux gens de se passer des bibliothèques, puisque en fait les gens pourront les acheter ou les emprunter à distance sans passer par le lieu physique bibliothèque.
Oui. C'est le principe même de l'e-book,
c'est de se passer des intermédiaires. Et en fait ça va plus loin que le livre numérique, parce que on observe dans pas mal de bibliothèques des nouveaux bibliothécaires, les bibliothécaires 3.0 ou les geeks, enfin je sais pas comment les appeler, mais qui sont vraiment des fanatiques des nouvelles technologies et qui eux vont mettre en place ce dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire des imprimantes 3D, des animations liées à la fabrication de t-shirts, enfin tout un tas d'activités qui sont absolument plus liées au livre, mais qui se développent dans tous les sens dans les bibliothèques actuelles. Pour citer un exemple sur la ville de Paris, là vient de s'achever récemment un festival qui s'appelait le festival NUMOC, festival du numérique en bibliothèque, et qui contenait tout un tas d'activités qui n'avaient plus aucun rapport avec le livre. C'est-à-dire la bibliothèque était devenue une sorte de centre culturel un peu alternatif, bourré de high-tech.
Un petit peu de musique.
Yeah! What's up, y'all? This your boy D-Mike. See, I usually do songs with, like, hooks and concepts and shit, right? But fuck that, man. I'm trying to go platinum. So I'm about to rock this shit. Check this out, y'all. Ooh.
bien sur Radio Libertaire 89.4. Et on est toujours avec Patrick Marcolini pour parler du livre sorti aux éditions L'Échappée, L'assassinat des livres, avec le sous-titre « Par ceux qui œuvrent à la dématérialisation du monde ». Mmh. Et on va continuer sur les bibliothèques. On a parlé de la numérisation externe, donc avec tout ce qui est voilà, borne Wi-Fi, informatique visible, promotion de l'e-book. Mais comme tous les métiers, on va dire, le numérique a fait son travail aussi en interne. C'est-à-dire que est-ce que finalement les bibliothécaires ne sont pas, comme tout le monde, des informaticiens maintenant ? Tel que le métier vers ou une évolution vers ce type de métier.
Bah ouais. En fait, si on veut faire un petit exposé de la journée d'un bibliothécaire modèle, en fait, ça consiste quasi exclusivement ça tourne quasiment entièrement autour de l'ordinateur. C'est-à-dire que on arrive le matin, on allume son ordinateur pour voir les mails. Ensuite, on va ouvrir le catalogue informatique. Qui va nous permettre de cataloguer les bouquins, de éventuellement d'enrichir les notices qui se réfèrent au livre, qui va permettre de suivre les commandes, qui va permettre aussi de régler les factures et ainsi de suite. Donc tout ça se fait sur l'ordinateur. Ensuite, on va faire un peu de service public, c'est-à-dire qu'on va se mettre en salle et puis on va renseigner les lecteurs. Mais pour renseigner les lecteurs, qu'est-ce qu'on fait ? On cherche sur l'ordinateur, sur le catalogue informatique. Mmh. Et puis ensuite, on va rentrer, on va peut-être faire une pause déjeuner, on revient. Et puis là, on prend un peu à bras le corps tous les problèmes qu'on était en train de gérer, toutes les affaires qui étaient à gérer. Donc là, par exemple, ça va être la numérisation d'une partie des collections. Parce qu'en fait, les bibliothèques ont commencé à donner les livres qu'elles ont dans leur fond à des sociétés qui les numérisent pour faire des livres numériques qui pourront être après mis à communication des lecteurs sur le site internet de la bibliothèque. Donc on se retrouve à nouveau devant un ordinateur. Mmh. Et ainsi de suite en fait. C'est-à-dire que la plupart des activités qui sont liées au monde des bibliothèques aujourd'hui tournent autour de l'ordinateur, de l'informatique et des réseaux sociaux. Mmh. Effectivement, le bibliothécaire est contraint de devenir un informaticien.
Et il y a aussi tout ce qui est sur le livre lui-même. Avant, on se rappelle des petites fiches qui sont les index où il y avait les mots-clés, etc. Ouais. Il y a aussi tout ça a changé. Il y a eu informatisation des. Il y a tous les livres ont des codes-barres, tous les cartes, voilà, des cartes RFID, des choses comme ça. Il y a aussi à la BNF des robots qui viennent prendre les bouquins à la place des bibliothécaires. C'est des choses qui arrivent de plus en plus aussi dans ces métiers-là.
Ouais. Et ce qu'il faut bien voir, c'est que à chaque fois que ces technologies se mettent en place, soit c'est des métiers qui sont supprimés, soit c'est des activités professionnelles qui sont extrêmement appauvries. Mmh. C'est-à-dire, par exemple, quand c'est des robots qui vont aller chercher les bouquins dans les magasins, comme ça se passe à la BNF et maintenant dans les plus grandes bibliothèques à travers le monde, évidemment, c'est le métier de magasinier qui est supprimé. Et alors on va dire oui, mais le métier de magasinier c'est aliénant, c'est un métier physique, parfois c'est un peu, il faut porter des cartons, etc. Alors déjà premièrement, il faut pas mythifier le truc. Le métier de magasinier c'est pas non plus aussi épuisant que ça. Et deuxièmement, ça permet aussi à certaines catégories de la population qui sont dans des situations où elles pourraient pas être employées dans le privé, en fait elles seraient jetées par le privé tout simplement. Ça leur permet de trouver un endroit où elles ont une reconnaissance de la part des gens, où elles entretiennent un lien social, où elles ont aussi un salaire. Enfin voilà, ça permet aussi à certaines catégories de population, je pense à des gens qui ont des problèmes mentaux, des choses comme ça, ça leur permet de trouver une inscription dans la société. Mmh. Et pas du tout dans la douleur, enfin je veux dire dans le respect par rapport aux collègues, mmh. etc. Donc ça c'est un ensemble de tâches qui sont supprimées. Et puis après il y a d'autres tâches qui sont extrêmement appauvries. Par exemple pour prendre un des exemples que tu cites, quand on met un automate de pré-retour, c'est-à-dire en fait une machine qui permet au lecteur de rendre le livre ou de l'emprunter de façon automatique uniquement en présentant sa carte, En fait, le bibliothécaire, effectivement, il fait plus les opérations de pré-retour qu'on décrit aussi comme particulièrement pénibles. C'est-à-dire qu'on se tape des fils de lecteurs qui défilent et puis il faut juste faire des bips sous un code barre. Bah, effectivement, le bibliothécaire ne fait plus ça. Le problème, c'est qu'un automate, ça tombe en panne, que c'est une machine, donc ça réagit pas à l'humain. Et donc, il y a tout un tas de gens qui sont complètement perdus face à ces machines-là, qu'il faut aussi voir à mettre à jour les logiciels, etc. Et donc, en fait, le métier de bibliothécaire, dont on décrivait, à mon avis, à tort, la pénibilité par rapport aux opérations de pré-retour, se retrouve à être un métier de technicien réparateur, qui passe son temps à bidouiller dans les machines quand elles sont en panne, à faire les mises à jour, etc. et à se coltiner les usagers qui, là, cette fois-ci, sont pas du tout sympathiques, mais sont plutôt en colère, parce que justement, l'appareil est en panne et que les fils qu'on avait voulu éviter se reconstituent devant les machines. Donc, en fait, il y a une
aussi,
forme de...
Il y a le personnel, tout simplement, qui s'est réduit, donc forcément,
oui,
dès qu'il y a
plus...
un problème, ça devient deux personnes à gérer.
Évidemment, parce qu'il y a un autre truc dont on n'a pas parlé jusqu'à présent, mais qui est important à dire aussi, c'est que l'arrivée des nouvelles technologies dans les bibliothèques, comme dans la plupart des autres activités professionnelles, en fait, est vraiment solidaire de la mise en place des modèles de management, de gestion de la force de travail, qui sont des modèles néolibéraux. C'est-à-dire que les nouvelles technologies ont permis de réduire le personnel, de flexibiliser les emplois du temps, de fragiliser la position du salarié par rapport à son employeur parce qu'il a beaucoup moins de maîtrise de son outil de travail. Donc en fait les nouvelles technologies ont été complètement solidaires de la mise en place du néolibéralisme dans la fonction publique, mais ça marche aussi dans le privé, hein. En tout cas dans les bibliothèques, c'est quelque chose qui n'a pas été assez aperçu, c'est-à-dire que par exemple les bibliothécaires avant faisaient leur propre catalogue. C'est-à-dire que c'est ce que tu racontais tout à l'heure. En fait, quand ils avaient des livres, ils tapaient à la machine des fiches cartonnées qui étaient ensuite rangées dans des registres ou dans des boîtiers, et ça donnait ces meubles qu'on retrouve parfois dans certaines bibliothèques, mais ils sont quasiment plus utilisés, qui étaient constitués de petits tiroirs qu'on tirait et dans lesquels on retrouvait les fiches par mots-clés, classées par nom de l'auteur, etc. Et ça permettait de retrouver un livre. Tout ça, c'était fait par les bibliothèques. Et aujourd'hui, en fait, ce que les gens ne savent pas, c'est que les bibliothécaires ne font plus vraiment leur catalogue. C'est-à-dire que ce sont les éditeurs qui fournissent toutes les données sur le livre, qui sont des données informatiques, qui après sont transmises aux diffuseurs, distributeurs, et aux sociétés qui permettent aux bibliothèques d'acheter les livres. Ensuite, les bibliothèques importent les notices avec les données sur les livres dans leur catalogue informatisé. Le problème qu'il y a là-dedans, c'est que le catalogue informatisé, c'est pas un logiciel qui a été développé par l'État ou par les bibliothécaires eux-mêmes. C'est un logiciel qui a été fait par une entreprise privée, elle aussi. Et donc, du coup, en fait, le bibliothécaire se retrouve dépendant d'une multitude d'entreprises privées. Là où auparavant, la seule entreprise privée qu'il avait face à lui, et encore, c'était celle qui fournissait le papier cartonné et les machines à écrire. Là, au contraire, maintenant, c'est toute l'infrastructure technologique de la bibliothèque qui est dépendante du privé. Et ça, on peut le constater très quotidiennement. Quand on voit une panne du catalogue en bibliothèque, aujourd'hui les bibliothécaires sont complètement démunis, c'est-à-dire qu'un fichier papier ça tombe jamais en panne, un catalogue informatique ça tombe en panne environ une à deux fois par semaine. Et pour ceux qui fonctionnent pas trop mal, mais par exemple à la ville de Paris, puisqu'on parlait de la ville de Paris, à la ville de Paris les catalogues de bibliothèques tombent en panne parfois 5 à 6 fois par semaine. Et à chaque fois, les services informatiques dépensent une activité énorme à faire les réparations, à demander les mises à jour, etc. Mais on voit bien dans toutes ces situations où se situe la dépendance concrète de gens qui sont au service du public, et bien elle se situe dans une dépendance par rapport au privé. Et donc il y a eu une inversion complète du métier, des objectifs, des finalités et des moyens des bibliothèques par rapport à ça.
Et donc les métiers qui ont disparu ces dernières années, c'est magasinier ou il y en a d'autres qui...
Non, en fait, c'est les métiers sont en train de disparaître. Donc on ne peut pas dire qu'il y a des métiers qui ont disparu. Mais par exemple, il y a une étude qui est sortie il y a un an et demi, qui a fait pas mal de bruit à l'époque, en fait, par des universitaires britanniques, qui essayaient de montrer quelles étaient les activités en général, pas seulement dans les mondes des bibliothèques, mais quelles étaient les activités qui allaient être progressivement remplacées par l'arrivée des nouvelles technologies, la robotique, l'automatisation, etc. Et en fait, dans le monde des bibliothèques, c'était un taux de plus de 60% de suppression d'emplois suite à l'automatisation qui était envisagée, donc sur une période de 15-20 ans. Et cette proportion montait à 99% pour les magasiniers. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui était envisagé dans cette étude, c'était la suppression pure et simple du métier de magasinier en bibliothèque par suite de l'automatisation. Alors après, bon, faut se méfier des effets d'annonce. C'est-à-dire que moi personnellement, je vois mal comment on pourrait se passer complètement d'un traitement manuel des ouvrages dans une bibliothèque patrimoniale, puisque en fait, on peut imaginer des bibliothèques dans lesquelles il y aurait plus de livres. Hein, c'est ce qui est en train de se faire aussi un peu partout. Mais bon, mais dans les bibliothèques où il reste des livres, parce qu'il restera des livres, je vois mal comment on pourrait se passer complètement de magasinier. Il n'empêche que là, on peut imaginer qu'une forte proportion des emplois en bibliothèque soient supprimés du fait de l'informatisation, l'automatisation, la robotisation.
Après, c'est une question pour faire lien avec l'interview qui va suivre, puisque après la deuxième partie de l'émission sera consacrée à la musique, à la numérisation actuelle de la musique. Et il y a un deuxième pas après le téléchargement de la musique MP3, il y a la partie streaming. Et c'est vrai qu'en discutant, il y a une question qui est venue, c'est si on compare ce qui se passe actuellement au niveau des gens qui téléchargent des albums comme ça, c'est comme si les gens, si on compare le disque et le livre, c'est comme si les gens se mettaient à lire un chapitre d'un bouquin sans s'intéresser à l'œuvre complète, ou voir une phrase et puis collectionner les petites phrases de leur côté. Et il y a quelque chose qui me semble évident dans la progression de la musique en comparant avec l'e-book, c'est qu'on se demande si finalement la prochaine étape, on ne va pas nous vendre un e-book, mais une bibliothèque, en disant vous aurez accès à tous les livres grâce à cet e-book. Et est-ce qu'il y a donc dans la numérisation du catalogue cette volonté-là, c'est de faire finalement de réduire une bibliothèque à un e-book pouvant se connecter l'entièreté d'un catalogue? Mais
en fait, je pense que c'est ce vers quoi on va aller. C'est-à-dire que le processus que tu décris, il existe déjà dans les bibliothèques, non pas sur les livres, mais sur ce qu'on appelle les périodiques, c'est-à-dire les revues, les magazines, etc. Et ça a commencé en particulier dans le monde universitaire sur les revues scientifiques. Ce qui s'est passé, c'est que progressivement, les revues scientifiques ont disparu dans leur format papier. Aujourd'hui, il y en a que très peu qui continuent à exister sur papier, en sciences dures comme en sciences sociales. Et en fait, ces revues se sont transférées complètement sur Internet avec un format numérique, où elles ont essayé de maintenir la forme revue, c'est-à-dire qu'en fait, on a toujours des articles, on a toujours des numéros spéciaux qui sortent à des dates régulières, mais par contre, ce qui est nouveau, c'est que les gens peuvent acheter les articles à l'unité, donc les extraire complètement de la revue, ce qui ne pouvait pas se faire auparavant. Et en fait, la question qui se pose, c'est mais comment ça s'est transféré sur le numérique? Ben en fait, c'est simple, c'est qu'il y a des éditeurs numériques qui sont mis en place, qui diffusent toutes ces revues. Donc ça, en fait, ce sont des gigantesques plateformes numériques qui en général sont une des plus grandes, c'est Springer. Hein. Springer, c'est un éditeur allemand qui est un des plus gros éditeurs de papier.
Qui est bien connu pour être bien à droite aussi.
Oui, voilà, qui a notamment mené dans les années 70 des campagnes de presse assez virulentes contre l'extrême gauche en Allemagne. Bon voilà, et aujourd'hui Springer continue d'être un géant de l'édition, et notamment un géant de l'édition numérique. Par quelle manière? En fait, tout simplement parce que il vend énormément d'articles scientifiques à travers ces plateformes numériques. Mais alors, comment est-ce qu'il fait? En fait, il vend pas seulement les articles à l'unité, ça c'est pour les particuliers. Pour les bibliothèques, en fait, il vend ce qu'on appelle des bouquets. C'est-à-dire qu'il dit écoutez, c'est pas intéressant pour vous d'accéder à telle et telle et telle revue. Moi, ce que je vous fournis, c'est un pack. C'est un peu comme pour le Canal Plus ou les trucs comme ça. Je vous fournis un pack. En fait, vous avez dans ce pack 70 revues scientifiques. Vous avez accès à toutes uniquement avec un forfait premium ou un truc comme ça. Et pour vous, c'est plus intéressant économiquement. En fait, c'est faux. Parce que les prix sont prohibitifs. Qu'en fait, ils les vendent à des prix différents à chaque université en fonction de sa taille, du nombre de consultations, etc. Donc en fait, ils modulent les prix de manière à ce que ça soit eux qui engrangent le maximum de profit. Les bibliothèques commencent à s'en rendre compte. C'est-à-dire que les bibliothèques canadiennes, par exemple, l'Université de Montréal au Canada, a décidé d'arrêter purement et simplement tous ses abonnements à des revues scientifiques à travers ces plateformes-là, parce qu'ils se sont rendus compte qu'en fait les universités étaient saignées vraiment par les éditeurs numériques. Mais ça, c'est ce qui a commencé à se mettre en place avec les périodiques, avec les revues, etc. Mmh. Moi, je pense que, et d'ailleurs Amazon a commencé à le développer sur un plan plus commercial et pas pour les bibliothèques mais pour les particuliers, je pense que ce qui va arriver, c'est en fait des offres de même type, c'est-à-dire des bouquets, où en fait on paye un forfait et en échange de ce forfait, on a accès à tout le catalogue d'un éditeur numérique, d'un éditeur en ligne. Les bibliothèques pourraient, on pourrait très bien imaginer que les bibliothèques soient soumises à des offres de ce type-là. Mais alors, ce qui se passe dans ce genre de situation, c'est que, premièrement, on a accès à tout un tas de choses qu'on ne veut pas, dont on n'a pas besoin. Donc il y a une forme d'encombrement et de... Il y avait une expression que je trouvais amusante qui était celle d'obésité informationnelle. Mmh. Ben, c'est un peu ça. En fait, ça génère aussi beaucoup d'inutilité. Enfin, voilà, c'est une forme de surconsommation de l'information. Et puis il y a une autre chose, c'est que c'est aussi... Et ça, on arrive sur une critique plus culturelle du numérique. C'est qu'on a, le numérique permet aussi, permet en fait, force les œuvres à éclater. En fait, le numérique est un effet, exerce un effet de dissolution sur les œuvres. C'est-à-dire, auparavant, on avait un roman ou un essai qui était une totalité, mmh, achevée, complètement architecturé avec une logique interne, une cohésion interne. Tous les chapitres se répondaient les uns aux autres. Il y avait une forme de linéarité de la lecture qu'on pouvait transgresser en sautant un chapitre, évidemment, mais il y avait quand même cette idée de totalité organique. En fait, l'essai, le roman, ça forme une œuvre. Mmh. Et en fait, le numérique permet, par exemple par les recherches plein texte, ou bien si c'est l'achat d'un chapitre d'un livre seulement et pas le livre en entier, le numérique fait exploser l'œuvre. En fait, il produit un éclatement du support qu'était l'œuvre au sens traditionnel du terme. Et donc ça crée aussi de nouvelles formes de lecture qui sont des formes de lecture que nous on juge vraiment appauvrissantes. C'est-à-dire que c'est une lecture qui procède plus que en diagonale, de manière complètement superficielle. En fait, on lit, okay, c'est surfer au sens strict du terme.
Je pensais à une pensée de certains éditorialistes qui font dire l'inverse de ce que dit les textes en prenant une phrase choisie.
Ouais.
Et oui, et aussi pas mal de travaux universitaires qui lient les arguments avec des références. Après, souvent, quand on a lu l'ouvrage, on se dit maintenant ils font exactement l'inverse, mais il faut avoir, ouais, lu jusqu'au bout.
Et en fait, là, ce qui est en train de se passer, c'est une décomposition de la lecture elle-même. Mmh. C'est-à-dire qu'en fait, les gens ne lisent plus, ils font plus que du repérage. Ils essaient de repérer dans un texte la phrase, le mot, la citation, le passage qui va pouvoir leur servir pour faire autre chose.
Et là, on est un peu dans le phénomène Internet, c'est que sur Internet, on a la confirmation de ce qu'on sait déjà.
Oui.
On n'a pas de nouvelles connaissances, mais juste.
Oui, parce qu'en fait, cette forme de lecture qui est, en fait, c'est comme la barre cherchée dans Google, hein, c'est, ou quand on fait une recherche plein texte. En fait, on cherche uniquement ce qui nous intéresse, ce qu'on connaît déjà. Mmh. En revanche, ce à quoi nous ouvrait le livre comme œuvre, c'était un mouvement particulier de la pensée qui faisait qu'on s'ouvrait à quelque chose qu'on ne connaissait pas, qu'on tombait sur des choses inattendues, qu'on avait des aperçus et des points de vue complètement différents des nôtres, qu'on était obligé de s'assimiler avant de pouvoir continuer la lecture. Là, la lecture est complètement interrompue, c'est une lecture sautillante, c'est une lecture complètement superficielle, qui passe par-dessus l'ensemble du texte uniquement pour trouver les choses qui vont nous intéresser, qui concordent déjà avec ce qu'on savait, ce qu'on voulait savoir, ce qu'on veut démontrer. Et c'est cette forme de lecture-là qui est en train de se développer. Et en fait, elle a commencé à se développer dans les périodiques numériques, avec les revues et les magazines en ligne fournis par les grands éditeurs, les plateformes. Et en fait, elle va demain se développer à partir de toutes les œuvres. C'est ça le vrai risque. C'est-à-dire qu'à travers un texte qui est complètement numérisé, il y a fort à craindre que les gens vont sauter les chapitres, lire de manière partielle, faire des recherches plein texte, etc. etc.
Mmh. On va bientôt terminer l'émission, ça se termine dans 5 minutes, après on passera une petite chanson pour faire la deuxième partie qui est sur le numérique, qui dure environ une trentaine de minutes. Pour lutter contre la numérisation des bibliothèques, est-ce qu'il y a des choses qui sont mises en place? Est-ce que vous... Donc on dit, voilà, le livre, c'était aussi parce que le collectif Livre de Papier était à bout de souffle. Mm-hmm. Mais est-ce que malgré tout, il y a des choses qui se mettent en place pour conserver ces bibliothèques?
Bah, en fait, à l'heure actuelle, je dirais que la principale force de résistance dans les bibliothèques, c'est une force extrêmement traditionnelle, mais qui est puissante, c'est les syndicats. En fait, les syndicats n'ont pas forcément une vision très claire de ce que font les nouvelles technologies dans les bibliothèques. En revanche, ils voient très bien que les conséquences concrètes sont des conséquences en termes de réduction des effectifs, de fatigue des travailleurs, etc. Donc en fait, pour l'instant, les syndicats, c'est la principale ligne de résistance en bibliothèque. Nous, à Livre de Papier, notre travail a été aussi d'aller voir la base des syndicats, les gens qui travaillent sur le terrain, pour leur dire... Attention, c'est pas juste une question de libéralisme ou de néolibéralisme ou etc. De danger de privatisation, de nouvelle gestion managériale et tout ça. C'est aussi une question de technologie. C'est-à-dire que le néolibéralisme, il avance pas que sur le plan économique, il avance aussi sur le plan technique, sur le plan des pratiques. On espère que le livre va trouver un écho du côté des syndicats, mais on peut être relativement confiant, c'est-à-dire que on voit bien quand on évoque ces questions dans les milieux professionnels, que ce soit l'édition, la librairie, les bibliothèques, on voit bien que les gens éprouvent un véritable malaise par rapport à leur activité qui est en train de perdre de son sens, qui devient de plus en plus absurde, où il y a un éclatement des compétences, ça aussi on en parle pas mal dans notre article. Les gens se sentent globalement perdus, c'est-à-dire qu'un bibliothécaire sans livre et sans bibliothèque, qu'est-ce que ça devient? Est-ce que c'est juste un animateur culturel? Mais alors un animateur culturel, on n'avait pas passé le concours de bibliothèque pour faire ça. Voilà, donc il y a un véritable malaise, et il est forcé que ce malaise à un moment donné se cristallise dans des attitudes de protestation. On le voit par endroits, ça se manifeste. À Grenoble notamment, il y a des bibliothécaires qui avaient écrit des textes assez intéressants dans la revue locale qui s'appelait Le Postillon. On le voit sur la région parisienne aussi, où il arrive fréquemment, en discutant avec des collègues, qu'on voit une résistance. Pour l'instant, ce sont des résistances éparses qui sont que je peux pas qualifier de passives, parce que je pense que les gens font réellement des choses, ils discutent autour d'eux, mais il manque encore la force du collectif. Et cette force du collectif, elle peut passer par les syndicats, elle peut passer en dehors, mais il va falloir qu'à un moment donné, les gens se saisissent de cette question des nouvelles technologies en bibliothèque et la pose de manière politique, pas uniquement sur le mode du ça marche, ça marche pas, c'est efficace, c'est pas efficace, mais sur qu'est-ce que ces technologies font à nos conditions de vie et de travail, qu'est-ce que ces nouvelles technologies font à la culture. Voilà.
Ok, on peut rappeler peut-être l'éditeur, c'est L'Échappé. On peut retrouver ce livre, je pense, à Publico, 145 rue Amelot, et à Quilombo, 23 rue Voltaire.
Et il y a de fortes chances que vous le trouviez même dans la plupart des librairies parisiennes et en France, puisque on l'a vu ces derniers temps dans pas mal de vitrines. Et je pense que c'est un livre qui plaît aussi aux libraires, parce qu'il fait toucher du doigt à beaucoup de gens les conditions de travail dégradées aussi des libraires, et les libraires soutiennent le livre.
En parlant de bibliothèque, et je voulais juste signaler un débat qui aura lieu à la bibliothèque associative de Malakoff, qui est une petite bibliothèque qui s'est créée autour de quelques libertaires, et qui se trouve à côté du métro Étienne Dolet, dans l'impasse Carnot, au fond. Et il y aura une discussion autour du livre King Kong Theory de Despentes, Virginie Despentes, et ce sera le 19 novembre à 20h30. Là je ne l'ai pas en tête, mais il y a plusieurs rendez-vous aussi de la librairie Quilombo. Il y a notamment il y aura des débats prochainement sur je sais plus là, j'ai oublié là. Mais il y a plusieurs ouvrages qui sont sortis, et je me rappelle plus la personne. Il y aura deux trois jours de débat. J'ai un trou. En tout cas, vous pouvez aller.
Je ne sais pas si c'est à ça que tu penses, mais il y aura très bientôt des journées d'hommage à François Maspero.
Voilà, c'est exactement ça.
Voilà, c'est ça.
C'est ça que je pensais.
François Maspero, qui était un grand éditeur de l'extrême gauche des années 50, 60, 70. Enfin, c'est en fait de la décolonisation jusqu'à mai 68, pour dire ça comme ça. Et donc il y aura effectivement un hommage à Maspero. Alors, j'ai pas la date exacte en tête, mais ça sera la librairie Quilombo.
Donc ouais, vous pouvez aller sur les sites respectivement, donc la BAM, où d'ailleurs vous pouvez trouver les émissions d'Offensive Sonore, et donc c'est b-a-m.org, Et vous allez sur radio pour trouver les émissions de radio, et le programme que je viens de citer y sera, et sur la librairie-quilombo.org pour avoir le programme de la librairie Quilombo.
Et si vous êtes parisien, n'hésitez pas à passer à la librairie qui se situe 23 rue Voltaire, voilà, dans le 11e.
Et qui a d'ailleurs écrit dans le livre « L'assassinat des livres », sous-titre « Par ceux qui œuvrent à la dématérialisation du monde ». Qui continue, on va interviewer Flo Martorell qui est qui dirige une maison d'édition qui s'appelle Vinyl Cosmo, qui est édite uniquement en espéranto. C'est un tout petit label. Et là, on va parler de numérique toujours, mais on parle de numérisation de la musique. Donc bonjour.
Bonjour, donc Flo, comme tu l'as dit, je réponds à toutes les questions correspondant à cette question numérisation et puis après la disparition petit à petit du support, en fait, du support physique.
Voilà, et il y a ça vient aussi des discussions qu'on a eues en privé, où tu disais qu'il y avait quand même pour toi le métier d'éditeur de disques. Bon, souvent on parle d'un métier c'est dans l'air du temps de dire qu'il ne sert à rien. Pour toi, c'était vraiment donner de la qualité au niveau sonore, être au service finalement de l'artiste pour restituer un maximum de qualité sur son œuvre. Qui est pour toi la concrétisation, c'est un album physique.
Voilà, pas seulement pour l'artiste, mais aussi pour le public qui écoute. Donc en fait, c'est un métier en fait qui est là pour tirer vers le haut la musique et la qualité technique. Et donc on se rend compte que donc c'est un très long travail en studio, etc. La mise en place aussi pour le pressage, etc. Donc c'est quand même un métier bien à part entière et qui à l'heure actuelle avec la dématérialisation est en train de tomber quoi, hein. Et c'est un savoir-faire qui va petit à petit disparaître et le souci surtout c'est que on se donne beaucoup de mal pour en studio produire une musique qui soit vraiment de qualité et puis après on l'écoute en la détruisant quoi, puisque on rabaisse la qualité en MP3 et les gens l'écoutent sur des supports complètement merdiques, hein, donc sur des iPods, des trucs comme ça, qui restituent un MP3. Donc c'est quand même un peu dommage. Et moi je pense que c'est au lieu d'aller vers de l'avant, on recule là. Voilà. Donc moi j'ai cette impression là. On recule au niveau qualitatif. On fait une super production jusqu'à un certain niveau et puis après on revient en arrière pour détruire ce son en le compressant au maximum pour qu'il puisse rentrer dans les lecteurs MP3 et compagnie quoi.
Il y a deux choses pour toi, il y a le côté aussi donc il y a la qualité et il y a aussi les ventes qui ont modifié. Et ça pour toi à partir de quel moment, parce qu'on peut dire la numérisation ça commence au CD et c'est petit à petit, après il y a le téléchargement, maintenant on est au streaming, à partir de quand tu penses qu'il y a eu vraiment un basculement ou c'est un processus lent? Est-ce que par exemple l'arrivée du CD pour toi c'est quelque chose de positif? Comment tu vois, parce que tu produis depuis les années 80, comment tu as vu cette évolution du déferlement numérique et de l'augmentation de la technologie finalement dans la production?
Donc, il faut dire que notre label Vinyl Cosmo est né en 90 et que notre première production c'était un vinyle effectivement, mais après vu l'évolution les productions qui ont suivi ont été directement sur CD. Et sur cassette, hein, donc, parce qu'à l'époque encore, il y avait de la cassette. Donc on vendait aussi bien en cassette que sur CD. Et le vinyle, on l'a abandonné justement. Il n'y a pas eu de suite de vinyle parce que le vinyle s'est très peu vendu à l'époque, quoi. Donc c'était l'avènement du CD, tout le monde achetait des CD et tout. Et donc effectivement, à ce moment-là, on s'est mis au CD. Mais ça restait quand même l'objet. Donc nous, on a toujours fait des CD avec des livrets, avec les premières compiles, elles avaient 24 pages, donc c'était quand même un bel objet. Hein. Voilà, donc différent du vinyle, c'est de la numérisation, mais ça reste quand même un objet qu'on peut conserver, qu'on peut présenter, qu'on peut mettre sur son étagère, etc. Voilà. Donc
avec une finitude, enfin c'est aussi le côté on l'achète, on le prend chez soi, enfin c'est quelque chose de complètement différent de ce qui se passe actuellement.
Voilà, tout à fait. Hein. Il peut s'acheter sur des stands, il peut s'acheter à la sortie d'un concert, il peut s'acheter par correspondance, enfin tout ce que tu veux, quoi. Donc c'est une démarche complètement différente, quoi. Voilà. Donc, moi, je pars de la numérisation à partir de l'avènement Internet. C'est pour moi, c'est ça le gros problème. Et donc, en fait, avec l'avènement de la DSL, hein, c'est-à-dire dans les années 2002 à peu près, quelque chose comme ça, proportionnellement, autant les gens s'équipaient avec des ordinateurs et la DSL, de l'autre côté, c'était la descente de la vente du numérique, du disque, tout simplement parce que les gens s'équipaient, ils téléchargeaient, et voilà, quoi. Et puis après, c'était la mode du partage avec la mule et compagnie. Donc les gens, ils achetaient un CD, ils le mettaient disponible sur Internet, et puis après, automatiquement, on se retrouvait avec moins de ventes, tout à fait.
Après, ouais, il y a le côté difficile aussi avec quelque chose comme Vinyl Cosmo qui est tourné vers l'international, hein, la langue espéranto. Il y a autant de gens au Brésil, aux États-Unis qu'en Europe qui sont intéressés par les CD. Et du coup, la dématérialisation, le coût est déjà assez important. Donc en fait, ça augmente ce phénomène de téléchargement. Et avec des gens aussi qui pensent bien faire, qui pensent développer la culture espéranto en mettant disponible toutes les chansons sans forcément demander ni aux artistes ni aux producteurs.
Voilà. Ben, disons qu'avec l'espéranto, c'est comme c'est une niche, hein, absolument donc très très petite, en fait, hein, faut rester réaliste. Beaucoup de gens qui sont là pour la promotion de la langue, pas pour la promotion de la musique, hein, mais la promotion de la langue, utilisent la musique pour promouvoir la langue, pour tout ça. Et effectivement, il y en a qui pensent que c'est bien que la musique soit disponible gratuitement pour que justement les gens ils puissent avoir accès à ça, mais bon, ils voient pas derrière que il y a des coûts de production qui sont quand même importants, et que ces coûts de production, si on rentre pas dans les frais de ces coûts de production, il y a plus de nouvelles productions possibles, et donc c'est un cercle vicieux, quoi. Et on se retrouve à un moment donné où le label se retrouve asphyxié parce que il y a plus de rentrées suffisantes pour pouvoir continuer à produire, et dans ce cas-là on sait pas ce qu'on va faire. Hein, voilà. Donc le problème, c'est la suite, c'est-à-dire que il y a eu la mise en place donc des systèmes payants pour le téléchargement, et puis après là on en est, même ça c'est en train de couler, donc on en est à l'ère du streaming, et qui est une période c'est une période charnière, et on voit pas trop comment la rémunération, le peu de rémunération qu'apporte le streaming puisse continuer à faire de la production nouvelle, quoi.
Juste pour par rapport à ça, donc il y a le téléchargement qui finalement a fait un coût considérable. Les ventes ont été divisées par 3, 4.
Oui, absolument. Bon, le téléchargement a fait que il y a une chute des ventes des disques monumentale à partir de 2005. Ça a été l'hécatombe, et là on en est à très très peu de ventes, et proportionnellement actuellement aussi, le téléchargement a eu. Moi, je dis déjà, je parle déjà au passé, parce qu'il y a déjà de moins en moins de gens qui téléchargent. Et je m'en rends compte moi-même sur la plateforme, hein, ce qu'on pouvait voir au début de la création de la plateforme.
Plateforme de téléchargement légal qui a été ouverte il y a combien, 5 ans maintenant ?
Elle est ouverte depuis 2009, je crois, quelque chose comme ça, quoi. Oui. Donc, effectivement, c'est problématique parce que c'est beaucoup de travail. Mettre en place une plateforme comme ça, d'autant plus que il y a un an et demi on se l'est fait pirater, donc il a fallu la refaire, ça a pris plusieurs mois et tout, donc c'est quand même beaucoup de travail pour très peu de résultats en fait, et ça c'est quand même assez problématique.
Ça c'était aussi une volonté de Vinicosmo de faire sa propre plateforme, ce qui est pas tous les labels ne font pas ça, pour récupérer un peu plus d'argent, puisque les iTunes et etc, tous ceux qui sont un peu responsables de la dématérialisation, donc de la mort du disque prématuré, on va dire, ou la mort du disque telle qu'elle devait être faite si on subit, c'est eux qui font quand même des prix très avantageux pour eux et peu pour les artistes.
Oui, bon, ils vont même jusqu'au point de demander aux producteurs de pendant plusieurs mois, au moins 2 mois, de ne pas faire payer pour qu'ils puissent faire la promo de leur plateforme, ce qui s'est passé avec l'ouverture de leur plateforme de streaming. Je trouve que quand on fait 14 milliards de bénéfices, je trouve que c'est un peu gros, quoi. Voilà. Non, nous, on a voulu créer notre propre plateforme pour 2 raisons. La première raison, c'est parce que on n'est jamais mieux servi que par soi-même, et que la vente directe du producteur au consommateur, enfin, ou à l'écoute, à la personne qui écoute, c'est vraiment le mieux qui puisse arriver. Et d'autre part aussi parce que par rapport à l'espéranto, nous avons une interface qui est en espéranto. Donc c'est très important dans le monde de l'espéranto. Même si notre plateforme elle est quadrilingue, donc elle est en espéranto, en français, en anglais et en espagnol, c'est quand même important que des Chinois, par exemple, ou des gens qui ne connaissent aucune des autres langues puissent accéder donc sur la plateforme en espéranto et puissent voilà. Et ça, personne ne pouvait nous le proposer que si nous le faisions nous-mêmes, quoi. Donc, ceci n'empêche pas que nous soyons sur la plateforme nationale et régionale de la Fédération des labels indépendants, qui est CDND, ND Midi-Pyrénées. Et ceci n'empêche pas non plus qu'on est aussi on est notre propre plateforme de physique, hein, puisque c'est une plateforme aussi qui est différente de l'autre, de celle de téléchargement. Voilà. Donc on a en fait 2 plateformes à ce niveau-là.
Ça c'est donc, alors pour préciser, c'est CD1D, c'est un peu plus compliqué que ça, mais c'est un site internet qui va finalement aider les labels indépendants avec aussi en prenant de l'aide un peu partout, de l'aide des régions.
C'est une plateforme, hein, c'est pas un site internet, c'est une plateforme qui présente donc tout le catalogue. Il y a 250 labels indépendants, quelque chose comme ça, et chaque label indépendant a son espace, chaque label indépendant a son catalogue d'artistes avec des pages d'artistes qui présentent ses artistes, et ensuite chaque artiste, chaque label dans son artiste représente aussi chaque album qu'il a produit, quoi.
Et donc ça vient aussi de la Fédération des labels indépendants. On va pas rentrer dans les acronymes et différentes choses, mais c'est des gens qui ont une envie de vivre du métier de la musique, pas forcément des artistes, hein, ça peut être des producteurs, comme on dit, c'est des métiers qui sont utiles pour la qualité du son, etc.
Mais beaucoup d'artistes ont créé leur propre label. Et après, on prit dans ce même label d'autres artistes parce qu'ils galéraient. Donc, les labels, la plupart du temps, c'est des gens qui sont passionnés de musique, qui ont la galère que c'est, ont monté le label. Et puis après, avec d'autres artistes, ont pu faire un catalogue. Voilà.
Et donc, ce regroupement de labels essayent de trouver finalement des moyens de s'en sortir, puisque financièrement, ils sont tous. Alors malgré ce qu'on dit, c'est pas parce qu'on est un petit label voilà de musique électro, etc., qu'on fait beaucoup de concerts, qu'on s'en sort. La fin du disque, c'est aussi voilà des gens qui ont une culture de ne jamais acheter de disque. Et du coup, ça et d'acheter que des MP3 ou de pirater. Et du coup, ça touche absolument tout le monde, même les petits labels indépendants. Ça touche pas seulement les grands majors. Et là, la volonté de CD1D et d'autres associations, c'était de trouver des alternatives. Et pour l'instant, ils sont partis sur les plateformes de téléchargement légal, du streaming, donc on va parler un petit peu d'un détouch, en essayant de faire opposition aux grandes plateformes, donc qui sont iTunes, etc. Ça veut pas dire...
C'est pas en opposition parce qu'on fera jamais, on pourra pas. Donc iTunes continuera à exister, mais on propose, ces plateformes de la Fédération des labels indépendants proposent des alternatives pour que les gens puissent acheter directement au producteur. Donc ça veut dire que il y a plus d'intermédiaires ou quasiment plus, et ça permet comme ça que la répartition soit équitable. Donc c'est l'objectif, c'est dire c'est comme une AMAP qui va du producteur au consommateur et sans qu'il y ait quelqu'un qui se sucre au passage, voilà, c'est tout. Et donc la démarche pour moi elle est beaucoup plus saine. C'est des artisans de la musique qui sont à la disposition des gens qui aiment la musique et qui sans intermédiaire peuvent distribuer leur musique. Voilà. Donc ça, c'était l'objectif de la plateforme, des plateformes régionales et de la plateforme nationale, CD1D. Et c'est aussi l'objectif de la nouvelle plateforme de distribution par streaming qui s'appelle Undetouch. Voilà. Donc, et c'est la première plateforme de streaming équitable qui permet donc aux labels de présenter leur catalogue en streaming. Et avec des rémunérations autres que ce que peut proposer Spotify ou iTunes ou Deezer.
Pour avoir une idée, on va dire, pour une lecture de chez Deezer, c'est 0,001 centime.
Ça peut aller de 0,0 à 1 à 30, mais bon, ça change, ça dépend on n'a jamais très bien compris.
On peut avoir des millions d'écoutes d'un album sans recevoir un centime, en recevant quelques euros. Et là, la différence d'un détouch, c'est que ce serait 40 fois, donc déjà 40 fois plus. Après, c'est des très petites plateformes, donc on était en discussion. Je pense pas que c'est non plus la solution pour sauver les labels. Je pense que le streaming légal ne va pas non plus c'est pareil que le téléchargement légal n'a jamais été au niveau du CD, de la vente des CD. Le streaming légal ne va pas non plus arranger les choses, apparemment. En tout cas, ce qui se passe actuellement, on est très loin du compte, quoi.
Oui, j'espère que ça va changer, parce que je ne vois pas d'avenir sinon. Comment on va continuer à pouvoir exister si les labels n'ont plus de moyens de vendre la musique? Ça, à ce moment-là, c'est complètement la disparition des labels, et les artistes vont se débrouiller sans label. Moi, je ne vois pas d'autre solution. Donc, où on rentre dans un cadre et que dans ce cadre on puisse légalement acheter la musique et que ça rémunère pour pouvoir produire dans des conditions normales et professionnelles, ou alors c'est plus possible, on peut plus avancer, quoi. Donc il y a pas d'alternative, c'est ça ou pas.
Donc, on va vers une précarisation généralisée du monde musical.
Il y a déjà des gens qui ont fait qui ont une vision assez noire de l'avenir et qui disent que petit à petit la diversité des labels va disparaître et que on va arriver à ce que proposent les majors, qui est qui va être assez formatisé, formaté, je veux dire, et la diversité petit à petit va disparaître. Et donc c'est hyper dangereux, parce qu'on va vers quelque chose de très uniformisé, quoi. Et ça, s'il n'y a pas pire, quoi.
Et la disparition des milieux, c'est-à-dire soit il y aura des trucs très petits, des gens qui font de la musique tout seuls dans leur cuisine, ou et puis en face il y aura Britney Spears et voilà quoi.
Mais ça va être du do it yourself là, comme on dit, et puis après.
Fais-le toi-même quoi, voilà. do it yourself.
Voilà, et après ben, la grosse prod de chez Universal et basta quoi. Donc il y aura plus la diversité qu'il y a à l'heure actuelle quoi, et ça c'est vraiment dommage quoi.
On est sur Radio Libertaire, le do it yourself, c'est pas forcément péjoratif François, c'est plus que qu'il n'y ait que ça quoi, qu'il n'y ait pas de milieu, et puis voilà quoi. Par exemple quelqu'un comme Léo Ferré, c'est pas non plus du do it yourself, c'est il y avait quand même une qualité sonore etc. Bah après même si lui il était peut-être dans les stars on va dire, mais entre les stars et le punk, il y a quand même un univers, il y a quand même des choses qui vont disparaître, et c'est très beaucoup beaucoup de choses variées, beaucoup de choses excellentes aussi.
Ceci dit, moi je suis pas contre que la musique soit gratuite, qu'elle soit disponible partout, mais dans ces cas-là que la production coûte rien non plus, c'est-à-dire que on aille dans des studios qu'on paye pas, que ça nous coûte rien, mais on en est pas là quoi. Il faut être dans une réalité, la réalité elle est pas comme ça, et il y a tout un système et il faut qu'on bosse avec ce système-là, ou alors, je sais pas, il n'y a pas.
On se base par rapport au système capitaliste tel qu'il est actuellement, et la dématérialisation et la gratuité, forcée des labels.
Est quasiment incompatible avec le système. On va vers la libéralisation de la musique, enfin la libération ou la libération de la musique sur le net, etc. La mise à disposition gratuite, ça va dans le sens tout à fait d'une idée libertaire, si tu veux. Mais en face, ça marche pas comme ça, puisque quand on doit faire la production soi-même, bah il faut bien acheter le matériel, il faut bien passer par payer des salaires d'ingénieurs du son, etc. Que ça, et donc.
Je dirais que c'est plus libéral que libertaire, puisque ça se fait pas en commun, on ne demande pas à l'artiste ce qu'il en pense, on n'en a rien à foutre. Souvent, c'est les gens qui vont revendiquer ce discours, dire bah, j'en ai rien à foutre, ils gagnent des millions, sans savoir vraiment s'ils gagnent des millions, et ils vont prendre tout le catalogue d'un artiste sans lui demander. C'est la fin de certains interdits. Mais c'est pas une vision libertaire de la société non plus.
Je suis tout à fait d'accord. Et non seulement ça, c'est que c'est carrément bon. Si on peut parler de spoliation du répertoire d'un artiste, c'est quand même un boulot qu'il a fourni, etc. Si c'était son moyen de bouffer, il se retrouve à la rue, quoi. Il a plus de quoi bouffer aussi, quoi.
Donc ça, en relativisant aussi, c'est pas parce qu'on télécharge un MP3 qu'on fait perdre de l'argent directement. C'est ça aussi. Le débat sur la gratuité de la musique, il est souvent sur cet argument-là. Ça veut dire que effectivement, directement, la personne qui télécharge va pas piquer un disque dans la, il va faire une reproduction. Mais après, il y a une répercussion générale. Je pense que c'est beaucoup plus général sur la vente de disques.
Mais ça s'est vu tout à fait avec pendant la période du disque, hein, où les gens faisaient leurs disques et puis après les gens se les partageaient sur Internet par Emule, par exemple. Donc c'est là qu'a commencé la chute du disque en fait. Hein. Ça commençait comme ça. Donc ça veut dire que la répercussion a été immédiate. C'est-à-dire, une personne achetait le disque, il mettait à dispo, les gens y téléchargeaient, et ils n'avaient plus besoin d'acheter le disque. Ça s'est répercuté sur le fait que les artistes, ils ont leur disque en stock chez eux et ils les ont sur les bras, point barre.
Alors là, on parle surtout d'économie, en fait, l'économie du disque est touchée. Il y a aussi, pour toi, on a parlé de la qualité sonore qui, voilà, faire un travail long pour avoir un MP3 complètement compressé à la fin, c'est pas forcément... Et il y a aussi, je pense, on en a pas parlé, c'est le côté consommation effrénée, c'est-à-dire, je sais pas si t'as un avis là-dessus, mais des gens qui vont avoir leur... là, c'est plus le cas. Avec le streaming, c'est on va dire, c'est presque, ça n'a aucun intérêt d'avoir quelque chose sur son disque dur. Mais c'est la culture du zapping. Est-ce qu'on va jusqu'au bout d'un album en streaming quand on est devant son ordinateur?
Ben, moi, j'ai des exemples de gens qui téléchargent, puis après le disque dur craque. Tant pis, hein, ils reprennent, ils retéléchargent. Donc, mais jamais ils écoutent les 50 000 titres qu'ils ont. Mais c'est juste faire de la provision pour je sais pas quoi. Voilà. Donc, mais bon, les jeunes à l'heure actuelle, c'est ça. C'est-à-dire, ben, ils achètent pas de disques, ils n'ont pas de stock. Il y a plus cette, l'envie de collectionner les albums, l'objet, etc. Je sais pas, comme quelqu'un qui a une bibliothèque et il aime avoir ces bouquins-là, et puis après prendre un bouquin, le lire, etc. Donc, et là non, c'est immatériel. Donc bon, on se rend pas compte. C'est des fichiers qui se chargent. Ça fait tant d'heures de musique et puis après roule quoi. Ils perdent ça, ben bon, c'est pas grave, on recharge, voilà. Donc c'est complètement une autre façon de consommer la musique et de la percevoir aussi, puisque il y a plus l'objet. Il n'y a plus le.
Ne faites qu'un avec vos pneus. Et la route ne fera qu'un avec vous. Pneumatique, Hankook, partenaire officiel de l'UEFA Europa League.
Tourne sur une playlist, c'est pas forcément l'écoute linéaire qu'on avait d'un CD.
Mais on peut imaginer qu'un jour le livre ça devienne ça, qu'on puisse avoir des chapitres à droite à gauche, que bon, t'as plus le livre, et puis après c'est tout décousu, et puis après c'est à toi de faire de rassembler le puzzle.
Ça serait plus un livre. Du coup.
Ça sera plus un livre, mais enfin bon, le gars qui l'a écrit, il a pas écrit dans cet esprit-là, quoi. Ouais. Et je pense que les musiciens, les artistes qui ont conçu un album l'ont conçu avec ils y passent du temps quand même à mettre l'ordre des titres, à gérer le truc. Puis après, y a certains albums qui ont une suite logique, etc. Donc si tu mets ça complètement décousu, t'as plus le même message. La personne qui a écrit la chose, qui a créé la chose, n'a plus la même approche non plus. Enfin, il y a plus cette approche qu'il y a entre le lecteur ou l'écouteur avec l'œuvre, quoi. Voilà. Okay. Donc c'est une autre vision, et puis après peut-être qu'il faudra s'adapter à cette autre vision, et que peut-être que on se retrouvera à lire des chapitres de livres dispersés, puis après de tout rassembler, mais ça va être compliqué, hein, pour tout rassembler, quoi, vous dire.
Oui, on va peut-être pas tout rassembler, simplement on va juste oublier ce qu'on a lu. Bah, c'est bien de terminer là-dessus, puisque finalement c'est le sujet aussi de l'interview, c'était de voir la relation entre la dématérialisation du livre qui essaye de se faire actuellement et de la dématérialisation du disque qui a déjà été fait. Même si voilà, des labels comme Vinyl Cosmo et comme d'autres continuent de mettre en avant cette forme malgré tout, quoi. Malgré.
Mais moi, je pense que la problématique elle est identique, hein. Et donc c'est des œuvres, et les œuvres elles peuvent on en passe par le même processus, puisque le livre maintenant est en train aussi d'être numérisé. Ça va être plus long, plus difficile, parce que il y a beaucoup plus, je pense, d'écriture d'œuvres littéraires que de musique, mais quoique c'est pas dit même, mais ça va être le même processus. Voilà. Donc attention, il faudra s'organiser et voir comment faire pour éviter les mêmes erreurs, quoi.